Alors, je voudrais commencer par préciser que les politiques d'insertion et d'action sociale, et dans leur dimension d'accueil des migrants, ne constituent pas un secteur qui m'est très familier. Et quand Aurélie donc m'a demandé d'intervenir en réaction à votre intervention, elle m'a demandé de le faire en ma qualité d'ex-juriste ou de juriste repenti, hein, puisque le droit est en effet de plus en plus omniprésent dans ce secteur qui tend, je crois, je m'en expliquerai, à se judiciariser. Juridiciarisé, pardon, actuellement. Et si je réagis également à votre intervention, c'est également parce que dans ma recherche, je m'intéresse à la démarche didactique de l'interculturel, qui est une préoccupation constante des formateurs dans ce champ, comme vous venez de le rappeler dans votre intervention. Donc ma réaction se fera au prisme de ces deux éléments de parcours, en me basant également sur ce que je connais donc des politiques d'accueil des migrants. Connaissances qui sont assez modestes, mais que m'a permis d'affermir le suivi attentif des débats qui ont lieu au sein de l'équipe de recherche qui organise cette journée d'études. Alors, je vais donc évoquer deux questions générales, inspirées de la lecture hein, de vos grandes lignes que m'a transmises Aurélie et de votre intervention. Donc, deux questions hein, qui sont nées de cette lecture orientée de vos propos, et j'espère que ça ne sera pas trop éloigné de votre intervention. Alors, dans un premier point, je vais évoquer la présence de plus en plus prégnante du droit comme instrument d'élaboration et de gestion des politiques d'accueil des migrants, et en particulier la forme du contrat qui semble devenir incontournable dans ce champ. Dans un second temps, j'évoquerai la connaissance de la culture du pays d'accueil, que j'aborderai donc sous l'angle particulier de l'enseignement des valeurs. Connaissance comme condition d'intégration et donc comme une sorte de clause du contrat qui sera évoquée dans mon premier point. Deux points qui renvoient, je crois, aux deux tensions que vous évoquiez et que vous venez de rappeler, hein, deux tensions sur lesquelles je vais revenir. Il s'agit d'une réaction très limitée, hein, une intervention qui est beaucoup plus riche. Donc j'espère que je ne vais pas trop réduire votre propos. Alors mon premier point porte donc sur le rôle du droit comme instrument de gestion et d'élaboration des politiques d'accueil des migrants. Les grandes lignes de votre intervention revenaient sur la tension structurelle qui construit l'identité des politiques sociales, pour reprendre vos propres termes, tension entre l'émancipation de la personne accompagnée et le contrôle social. Le contrôle social. Alors, il me semble que cette tension émancipation-contrôle social renvoie à un questionnement pardon, ancien dans le champ de la réflexion juridique et politique. Le droit, comme moyen d'intervention du politique, doit-il viser prioritairement l'émancipation individuelle ou le contrôle social? Alors, les différents systèmes juridiques à différentes époques ont pondéré différemment les éléments de cette équation. Mais ce qui me semble relativement nouveau en France, c'est la forme juridique que tend à prendre de plus en plus souvent ce contrôle social, à savoir celle du contrat. Et notamment dans le champ de l'intervention sociale, où la tendance semble être en effet à la contractualisation des rapports sociaux. Et le contrat devient une référence majeure de ce champ, un contrat de séjour, un contrat de prise en charge, un contrat d'insertion, contrat d'accompagnement social personnalisé, contrat de responsabilisation parentale, contrat jeune majeur, etc., etc. Et les politiques d'accueil des migrants s'inscrivent dans cette mouvance, alors avec bien sûr le contrat d'accueil et d'intégration, qui a pour objectif de contractualiser les engagements réciproques d'un étranger nouvellement arrivé légalement en France et des autorités françaises dans un contrat individuel. Et également, je crois, le dispositif français langue d'intégration qui peut être lu comme une clause de ce contrat. Le contractant migrant doit remplir la condition linguistico-culturelle pour être intégré. Alors, il faut noter qu'on parle ici de droit public. Si la logique contractualiste existe bien sûr dans ce secteur du droit public, on pense bien sûr au contrat social de Rousseau, mais dans un sens un peu différent. C'est surtout le droit privé qui a travaillé cette question à travers diverses théories. Et j'ouvre une parenthèse sur ce point. Hein, parmi ces théories, celle du contrat unilatéral, que le Code civil reconnaît, énonce qu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que, de la part de ces dernières, il y ait engagement. Donc, on a bien souvent, je crois, l'impression que c'est ce type de logique contractualiste unilatérale, c'est dans ce type de logique que tendent à s'inscrire les politiques d'intégration des migrants, tant les engagements de la part de l'État au sens large, l'État contractant, sont parfois minimes, et tant les obligations faites aux migrants sont de plus en plus nombreuses et exigeantes. C'est d'ailleurs cela qui faisait dire à Daniel Lochat, qui est professeur de droit à Paris 10 et qui est ancienne présidente du GISTI, que le caractère contractuel, je la cite, le caractère contractuel du contrat d'accueil et d'intégration est entièrement fictif, puisque seul l'étranger prend des engagements, d'une part, et qu'il n'a pas d'autre choix que de signer le contrat, d'autre part. Il n'y a pas donc de volonté contractuelle. Alors, je referme cette parenthèse, j'en reviens à ma remarque plus générale. Si l'on peut dire, les différents acteurs ici confirmeront ou infirmeront, si on peut dire qu'il y a bien une tendance générale à la contractualisation dans la politique d'accueil des migrants, cette tendance est à replacer dans un mouvement général de contractualisation des rapports sociaux qui conduirait à penser qu'un État contractualisé est en train de remplacer un État réglementaire. Cette contractualisation, elle-même liée à une redéfinition du statut et du rôle de l'État, l'État au sens large, d'un État qui pourrait de moins en moins agir seul et devrait de plus en plus composer avec la multiplicité des acteurs. Ce qui se traduirait par une judiciarisation, procéduralisation, des échanges via notamment le contrat comme instrument d'ajustement entre les intérêts divergents. Alors l'État contractualisé, on le voit, va de pair avec l'État judiciarisé. La contractualisation et judiciarisation vont de pair. Quand on estime qu'une partie ne respecte pas le contrat, on va devant les tribunaux, alors administratifs le plus souvent pour ce qui concerne le secteur de l'intervention sociale, d'accueil des migrants. Ce que les associations font régulièrement pour redresser, limiter l'arbitraire des pouvoirs publics. Alors, que penser de cette tendance, de cette dynamique? C'est une question difficile et qui n'a certainement pas une réponse unique, mais je crois que cette judiciarisation, qui est une conséquence de la contractualisation, peut être interprétée, c'est une interprétation parmi d'autres, comme une forme de désengagement de l'État dans la gestion, notamment des politiques migratoires. État qui, donc, dans une optique libérale, laisse cette gestion aux acteurs qui, donc s'il y a problème, peuvent toujours régler leurs conflits devant les instances de règlement des conflits. On établit un contrat avec des clauses, dont le français l'intégration fait en quelque sorte partie, clauses qui transfèrent une part importante de la responsabilité sur le co-contractant migrant. Et si ces clauses sont jugées non respectées, on peut considérer le contrat rompu et donc prendre des mesures en conséquence, notamment la reconduite à la frontière ou la suppression de diverses allocations. Donc avec le contrat d'accueil et d'intégration, c'est assez évident, le contrat est posé, charge aux migrants de le respecter, et si les attentes ne sont pas remplies, cela se résoudra juridictionnellement, et finalement l'État ne s'engage que très peu dans cette affaire. Alors, je précise tout de suite que la responsabilisation des migrants n'a pour moi en soi rien de choquant. Un État, quel qu'il soit, est en droit d'attendre un certain effort d'intégration de la part de ses migrants, et plus largement de tous ceux qui vivent sur son sol, et éventuellement de demander des comptes. Mais le fait de judiciariser, de contractualiser cela, peut être interprété donc, d'une part, comme une forme, je le disais à l'instant, une forme de désengagement des acteurs politiques, qui en surutilisant le droit, donc ils font une arme privilégiée de leur combat politique, contribuent à ancrer la croyance dans la force du droit et donnent à voir une vie politique entièrement régie par le droit, le politique, pour parler très trivialement, se sert du droit pour se cacher derrière lui. Alors, autre élément plus insidieux lié à cette judiciarisation, le droit peut aussi permettre de camoufler par une apparente technicisation les enjeux idéologiques que traduit une politique de limitation forte de l'immigration. L'instrument du contrat peut en effet jouer facilement comme levier pour rejeter des demandes de carte de séjour, d'accession à la nationalité, etc., etc. Il suffit pour cela de se retrancher derrière le technique en arguant que les clauses du contrat sont réputées non remplies. Donc c'est l'instrumentalisation de l'instrument, en quelque sorte, ce qu'évoquait Geneviève Koubi, juriste, dans l'article qu'Aurélie nous a transmis récemment. Alors, au-delà du phénomène de société qui est assez général, de la contractualisation, de la judiciarisation des rapports sociaux, on peut s'interroger sur ce que cela induit dans ce secteur spécifique, l'intégration des migrants. Surtout, et j'en viens à mon deuxième point, surtout quand les termes du contrat sont fortement sujets à caution, notamment en ce qui concerne ce que j'appelais la clause de connaissance de la culture française. Donc j'en viens à mon deuxième point, qui est un autre élément qui m'a semblé revenir très largement dans votre intervention et dans les grandes lignes que vous m'avez transmises. Quand vous affirmez, par exemple, que comprendre la culture de l'autre pour l'aider à intégrer la culture du pays d'accueil est un préalable à l'adaptation des politiques publiques et d'insertion des personnes étrangères. Et vous donniez à cet égard l'exemple, à l'instant, des cultures nourricières dans le cas de messages de prévention et d'information. Alors, je vais prendre un autre exemple pour aborder ce même thème de la connaissance des cultures des migrants et du pays d'accueil, à savoir celui des valeurs, et notamment des valeurs de la République française. Puisque nous avons eu confirmation récemment que le dispositif français langue d'intégration s'appuierait sur le document 25 fiches valeurs élaboré par la DAIC et le Haut Conseil à l'intégration, dont certains d'entre vous ont pris connaissance, un document qui s'intitule exactement « Enseigner les valeurs de la France dans le cadre du français langue d'intégration, les 25 fiches essentielles à l'usage du formateur FLI ». D'abord, je voudrais dire que je considère qu'enseigner les valeurs, cela n'a en soi, là encore, rien de choquant, si ce n'est l'essentialisation que cela suppose bien souvent. Et donc rien de choquant, et cela ne choque d'ailleurs personne, que par exemple le système scolaire français prennent en charge cet enseignement des valeurs depuis maintenant de nombreuses années à travers une discipline de l'enseignement secondaire qu'on a coutume d'appeler l'éducation civique et aujourd'hui l'éducation civique, juridique et sociale. Alors je m'étais moi-même intéressé à cette discipline dans le cadre de ma thèse sur l'insertion socio-universitaire des étudiants étrangers. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de public et qu'un collégien français inscrit à l'école française n'est pas un migrant demandeur d'asile, pour prendre un exemple parmi d'autres. Pourtant, la manière dont semble conçu cet enseignement culturel des valeurs dans le dispositif français d'intégration n'est finalement que peu différent de cette éducation civique, juridique et sociale. Il s'agit en effet très largement de contenu, d'une inculcation de ces valeurs, dans une démarche qui est plus éducative que formative, dans une forme de prise de pouvoir sur l'autre, pour reprendre votre expression. Démarche qui ne prend finalement que très peu en considération les parcours, les représentations, etc. des migrants. C'est en tout cas ce qui ressort de la lecture de ces 25 fiches et de leur utilisation proposée dans les formations courtes français dans l'intégration à destination des formateurs de formateurs. Et dont nous avons eu un aperçu hier à travers le document qu'Emmanuel Hubert nous a transmis, a fait circuler dans l'équipe. Alors même l'éducation civique, juridique et sociale, qui s'adresse pourtant à des collégiens et lycéens en immense majorité français, est conçue de manière bien plus interculturelle en incluant la démarche comparative. Je cite les instructions officielles de la classe de seconde. « La diversité des conceptions, des institutions et des pratiques de la citoyenneté est appréhendée par une méthode comparative dans le temps et dans l'espace. » Alors on peut dire que la culture de l'autre, on ne peut pas dire que la culture de l'autre est totalement absente de ces 25 fiches essentielles à l'usage du formateur français langue d'intégration. Mais quand elle l'est, c'est plutôt dans un rapport d'opposition qui trahit bien souvent une certaine caricature des populations visées par ce dispositif. La loi de la République, par exemple, est opposée à la charia, par exemple. Et j'insiste sur ce par exemple, puisque ce par exemple est présent dans le document auquel nous avons eu accès, et chacun pourra juger de cet exemple opportunément choisi. Donc, s'ajoute à cela que les valeurs de la République, mais je ne vais pas avoir le temps d'évoquer cette question, ces valeurs de la République sont présentées sans complexe et sans plus de réflexion comme a priori universelles. Donc, dans ce dispositif d'enseignement culturel qui participe d'une politique d'intégration, l'enseignement des valeurs françaises est donc pensé de manière quasi identique à ce que l'on dispense aux collégiens et aux lycéens français, et même de manière moins interculturelle, puisqu'on a vu que les instructions officielles intégraient une démarche comparative. Donc il y a donc dans ce dispositif une certaine négation des parcours des migrants qui me semble pour le moins problématique, et une conception éducative de la formation sur laquelle on a un peu discuté avec Aurélie et sur laquelle on reviendra peut-être cet après-midi. Alors, comment faire? Vous proposez dans vos actions la démarche interculturelle, vous êtes revenu là-dessus, qui je le crois est effectivement essentielle. Et cette démarche, pour ne pas être galvaudée, doit continuer sans cesse et toujours à réaffirmer les précautions à prendre avec la notion de culture. Dans le cas qui nous intéresse, cela passe par une constante vigilance pour ne pas considérer la culture du migrant ou la culture du pays d'accueil comme des entités figées, des entités homogènes. Et en termes formatifs, ça se traduit encore par une évidence, maintes fois rappelée, mais qui est toujours pourtant assez mal comprise, qu'on ne peut pas définitivement comprendre la culture de l'autre, sauf à la réduire considérablement, la figeant et l'homogénéiser. Et que donc, cette connaissance n'est d'ailleurs peut-être pas la meilleure garantie contre le rejet de l'autre. Il n'y a qu'à se rappeler ce que l'on comptait de fins connaisseurs des cultures primitives parmi les théoriciens du racisme, pardon, ou encore les réflexions parfois entendues dans la bouche d'expatriés de longue date qui ont une connaissance fine de la culture du pays d'accueil. En revanche, le sens de la démarche interculturelle, profondément réflexive, est d'essayer, non pas de former donc à cette connaissance de la culture autre, mais de former à comprendre comment on comprend l'autre avec lui dans la rencontre, et initier une telle réflexion avec les publics migrants, par exemple, sur la manière dont ils comprennent ce qu'ils se représentent comme les valeurs françaises, les valeurs de la République française, comment ils les comprennent à partir de leur parcours, de leur histoire, de leur projet, etc. Donc l'enjeu des dispositifs de formation interculturelle est bien d'initier ce processus réflexif, ce qui n'est pas toujours simple, tant l'idéologie transmissive est toujours présente, celle qui insiste donc sur la culture, les connaissances culturelles, qui ne sont bien sûr, j'insiste bien là-dessus, qui ne sont pas à exclure, mais à présenter différemment. Alors, en termes de formation de formateurs, et je m'arrêterai là-dessus, dans le champ de l'accueil des migrants, l'erreur, je crois, consisterait à centrer ces formations de formateurs uniquement sur les contenus et leur didactisation, donc les 25 fiches valeurs, sans intégrer une réflexion sur la prise en charge didactique des parcours migratoires, qui sont, vous l'avez également rappelé, des parcours d'interculturation. Et c'est pourtant à la voie que me semble emprunter en partie le dispositif français langue d'intégration, qui prévoit la formation de ces formateurs, que ce soit donc dans les formations courtes ou dans les masters, et les fiches valeurs donc à l'attention de ces formateurs en sont un exemple qui me semble assez préoccupant. Alors je vais m'arrêter sur ce dernier point, mais je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer d'autres points de votre très riche intervention qui m'ont, des lignes que vous auriez également maintenant, qui m'ont beaucoup interpellé. Merci de votre attention. Merci.